Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner à Marc, chapitre 12. On va regarder les versets 38, 39 et le verset 40. Comme je dis, nous sommes libres en Jésus. Mais beaucoup de monde, ils pensent que cette liberté qu'on a, c'est un beau idéal, mais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment vivre. C'est pas pratique. Mais la réalité, ce n'est pas que cette liberté qu'on a n'est pas pratique. La réalité est qu'on ne l'approprie pas. Cette liberté est là. Et pourtant, souvent, on ne l'expérimente pas. Un matin, nous allons parler de la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Je vous avais dit, je pense que ça fait 2 semaines, on avait parlé de le reproche de Jésus au Sadducéen. Un matin, c'est le reproche de Jésus aux scribes, des hommes importants dans la société. C'est pour ça que j'ai mis ma manteau. Je suis chic un matin. Quand j'étais MBBI, dans mon deuxième année de MBBI, j'ai expérimenté la vraie liberté. C'est là que j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était. Je ne vous donnerai pas toute l'histoire, mais je vais vous donner le résultat. J'ai réalisé que une partie de la liberté qu'on a en Jésus-Christ, c'est la liberté d'être nous-mêmes. De ne pas suivre Hollywood. De ne pas être une esclave au standard de tout le reste du monde. J'ai réalisé que si je fais de mon mieux pour plaire à tout le monde, je serai pas capable de plaire à personne et je serai surtout pas capable de plaire à Dieu. Surtout pas capable de plaire à Dieu si j'essaie de plaire à tout le monde. Alors, on va lire le texte. Le verset 38 et le verset 40. Verset 38 jusqu'au 40. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premières sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence des longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » J'ai lu ce verset ici au début de l'été. Ça m'a vraiment frappé. J'ai été vraiment comme, aïe, aïe, j'avais jamais remarqué ça avant. Leur condamnation serait particulièrement sévère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire un matin? Un peu semblable à la semaine passée. Nous allons regarder 3 choses. Premièrement, nous allons regarder le contexte historique et textuel. Pourquoi? On ne peut pas appliquer quelque chose à nous autres si ce n'était pas dit à nous autres, puis si on ne comprend pas pourquoi ça a été dit. C'était quoi le but? Alors, on regarde le contexte historique et textuel pour savoir pourquoi est-ce que Jésus a dit ça, à qui est-ce qu'il a dit ça, et c'était quoi son but? C'est quoi un principe qu'on retire de ça pour nous autres, qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament? On va regarder qu'est-ce que Jésus a dit à propos des scribes, puis ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on peut appliquer ces versets à nos vies. On va commencer avec le contexte historique textuel. Vraiment simple, c'est 3 versets. À qui est-ce que Jésus a parlé? Bon, si on retourne dans le verset 35, il dit ceci. « Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. » Il montre un peu son enseignement, puis il continue le 38. « Il leur disait dans son enseignement. » Fait qu'on voit que Jésus était dans le temple. Il parlait aux gens qui étaient dans le temple. Il y en avait des scribes dans la foule. Il y avait des pharisiennes, il y avait des sadducéennes. Il y avait des gens normaux dans cette foule-là. Puis parlant à ces personnes-là, il a dit ces mots-là. De qui est-ce qu'il parlait? Bien, c'est évident. Il a parlé des scribes. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le reproche de Jésus aux scribes? Parce que, Premièrement, les scribes étaient tous là. Imagine-toi, Jésus s'élève, toi tu es une scribe, toute bien habillée, tu es assis dans le rangée en avant, juste là, là, ok? Tout chic, la beau apparence, tout le monde t'a vu arriver, là, puis t'as fait 100% sûr que tout le monde t'a vu serrer la main du président de Jérusalem, bonjour. Là, tu t'assois en avant, soudainement Jésus se lève, puis il dit qu'est-ce qu'on vient de lire. Je te dis, là, ça commence à faire rouge un peu, là, tu fais ça, puis tu te caches un petit peu, là, tu sais. Il a parlé des scribes, puis les scribes étaient là. Mais, pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? C'était pas juste pour les scribes, c'était aussi pour les gens qui étaient là, parce que le premier mot qu'il dit, c'est « gardez-vous des scribes. » Gardez-vous des scribes. Il veut avertir le monde qui était là de quoi? Pas nécessairement de ses actions. Parce qu'en tant que tel, il n'y a rien de mauvais dans les beaux habits. Il n'y a rien de mauvais en faisant une prière qui est longue. Pourquoi est-ce qu'il a averti des gens? Parce qu'il y avait une attitude qui était là, qui n'était pas correcte. Fait que nous allons regarder 5 raisons. Les 5 raisons pour lesquelles Jésus a dit ceci. Nous allons regarder les 5 raisons pour lesquelles il faut se garder loin des scribes et pas être comme eux. Premièrement, ils désirent se promener en robe longue. C'est pour ça que j'ai mis ma robe le matin, mais je vais enlever parce qu'il fait chaud. C'est bon. Ils désiraient se promener en robe longue. Et tu sais quoi? Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une attitude que je vois souvent aujourd'hui. Je ne peux pas vraiment vanter de ça le matin, mais l'attitude des scribes, si on mettait ça aujourd'hui, l'attitude des scribes serait un peu comme ceci. As-tu vu mon nouveau chandail Tommy Hilfiger? Je ne te dirai pas combien ça a coûté parce que... Wow! Oh! As-tu vu mon habit Armani, c'est ça. As-tu vu mon habit Armani? Tu sais que je n'en ai pas un, je ne suis même pas capable de le prononcer. Ça a coûté plus que mon char. Et tu sais qu'est-ce que c'est mon char? C'est une Porsche 911. Wouh! Tu devrais voir. Ça, c'est mon char de rêve. Paul m'a dit que quand il devient riche, il va m'acheter une pour une année. Mais seulement pour un an, parce que je serais tellement dedans, il ne veut pas que je néglige ma femme. Fait, as-tu vu mon Porsche 911 ou mon Mercedes? C'est un symbole de mon popularité et mon importance. Oh, as-tu vu mon nouveau Rolex? Ça a coûté plus cher que ma maison. Une chose qui serait peut-être intéressante, c'est pas, on dirait pas que le monde il dit ça nécessairement, mais c'est intéressant combien des gens promènent dans la vie avec des masques. Je parle surtout pour les femmes. J'en connais des femmes qui sont pas capables de sortir de leur lit quasiment, sans qu'ils ont déjà mis le maquillage. C'est intéressant. On ne te voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est L'Oréal ou Maybelline. Il y a des gens, autant dans l'Église que pas dans l'Église, qui promènent, puis tout ce qu'ils veulent, c'est que le monde les voit. C'est pour ça qu'ils portent des choses vraiment chères. Mais je veux revenir. C'est pas mauvais d'avoir des choses qui vont chères. Il y en a des gens qui sont capables de donner 90% de leur salaire à Dieu, avec l'autre 10%, acheter des grandes maisons, une Porsche 911, etc. Peut-être pas ici, mais peut-être Bill Gates, s'il était chrétien, il serait capable de faire ça. T'sais, c'est pas mauvais en tant que tel. C'est l'attitude qui est en arrière. Je veux que le monde voit. Regarde, je suis habillé comme Tom Hanks ou je sais pas, quelqu'un comme ça. Regarde. Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé ceci. Est-ce que des gens autour de toi, est-ce qu'ils te voient ou est-ce qu'ils voient Tommy Hilfiger? Est-ce qu'ils te voient ou est-ce qu'ils voient Armani? Ou Hugo Boss? Ou une autre marque comme ça? C'est drôle parce que souvent, on paye des centaines de dollars pour pouvoir être une publicité vivante pour des compagnies, quand que d'habitude, c'est les compagnies qui vont payer des centaines de milliers de dollars pour avoir des publicités. Puis souvent, nous, on est les meilleures publicités pour les compagnies. Puis j'ai pensé à ça, puis je me disais, je pourrais acheter une habit Armani, 20 000 $ ou ben peut-être pas, c'est peut-être une exagération, là, mais 5 000 $ ou je pourrais m'acheter un petit habit 120 à Moores. Puis tu sais quoi? Honnêtement, moi, je ne saurais pas la différence. J'ai écouté, il y a un groupe de rap où que un des rappeurs, il a dit ceci. J'ai pas besoin de ces choses comme des rimes sur les voitures là, qui spinnent. Là. J'ai pas besoin de toutes ces choses qui montrent ma statut dans la société. Parce qu'il dit, tu sais quoi? Je pense pas que c'est comme ça que Dieu veut que je dépense son argent. C'est pas mon argent à dépenser ou ce que je veux. C'est l'argent à Dieu. Peut-être que Dieu ne veut pas nécessairement que tu portes Armani. Peut-être qu'il préfère que tu portes Moores et que tu donnes le reste que tu aurais payé pour l'Armani à quelque chose qui va le servir au lieu de toi. Ce n'est pas que... J'espère que notre attitude, c'est savoir ceci. Je ne veux pas que... quand les gens ils me regardent, je ne veux pas qu'ils voient Tommy Hilfiger. Je veux qu'ils voient Jésus. C'est ça que devrait être notre attitude. Mais pour les scribes, c'était totalement l'autre chose. Les scribes, dans ce temps-là, ils promenaient dans des robes longues qui étaient en mode pour les rois. Juste, même quelques rois n'étaient pas capables de payer des choses que les scribes ils avaient dans ce temps-là. Deuxième chose, ils désirent les salutations sur les places publiques. Salut, docteur Scribe, B-A-M-A-P-H-D. Ça va bien? Leur importance s'était prise dans les salutations. Salut, monsieur le président. Tout le monde m'a entendu. Je connais très bien le président. J'ai été manger avec lui. Ça va bien? On a eu un bon temps à dîner hier soir. Tout le monde a entendu? Il aime ça, les salutations publiques. Quand que ça vient... montrer leur importance. Quand que ça vient leur montrer comment que eux, ils sont grands et populaires. Cinquième chose, ils désirent les premières places au repas puis aux synagogues. Aux synagogues, c'est pour montrer leur spiritualité. Je vais arriver le dernier et je vais aller m'asseoir en avant. Pourquoi? Pour que tout le monde me voit arriver et voit que je m'assieds en avant. Parce que je veux que tout le monde sache que moi, je suis ultra spirituel. J'ai même pas amené une parapluie pour si le prédicateur, il bave trop. Ou il crache trop. Parce que je suis spirituel. Pourquoi est-ce que je veux la première place dans tous les repas? Parce que c'est la place privilégiée. Je m'en vais à la place au bout de table, à la tête, pour que tout le monde puisse voir que c'est moi qui est important. Moi, je suis l'invité honoré. Tout le monde devrait vouloir être comme moi. Ensuite, il dévore les maisons des veuves, mais il ne le fera pas ouvertement. Il n'ira pas prendre comme ça, mais c'est par la manipulation, le mensonge, tout en gardant un beau masque de « je suis parfait, j'ai rien fait du mal ». Mais en arrière, qu'est-ce que tu ne vois pas? C'est la manipulation pour gagner des biens. C'est la manipulation pour gagner des choses qu'eux, ils veulent. C'est le mensonge. Et ils ont un beau petit masque tout le temps pour que le monde pense « Je suis saint. Je n'ai pas fait aucun mal. » Paul, il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais il a aussi dit que quelqu'un qui ne travaille pas ne devrait pas manger parce qu'il n'a pas travaillé pour qu'est-ce qu'il a eu. On ne gagne pas des choses par le mensonge ou la manipulation. On devrait les gagner honnêtement. Et les scribes ne le faisaient pas. Les scribes, c'était par la manipulation, par le mensonge. Je vais aller en arrière puis prendre des choses, puis tout le monde pense que je suis beau tout le long. Des longues prières pour l'apparence. Et c'est intéressant parce que Jésus, il a vraiment précisé, parce que c'est important ça. Ils font pour l'apparence de longues prières. Il n'y a rien de mauvais en tant que tel dans une prière qui est longue. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu as beaucoup de choses sur ton cœur. Si qu'est-ce que tu dis, ça vient de ton cœur. Mais si qu'est-ce que tu dis, c'est juste pour l'apparence, pour paraître spirituel. Parce que tu penses, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui est sauvé depuis longtemps, le monde me regarde y aller, il faut que je présente un modèle de qu'est-ce que c'est une personne spirituelle. Malgré le fait qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas de prier. Je vais quand même faire une grande prière pour que tout le monde voit ma spiritualité. C'est intéressant parce que des fois, il y en a un petit combat dans la tête. Puis les deux côtés de médaille ne sont pas bons. Le premier combat, c'est je vais tout planifier mon prière pour que j'ai l'air spirituel. Mais là, quelqu'un d'autre vient de dire qu'est-ce que moi je voulais dire et là, je deviens frustré. Probablement lui, il l'a fait pour avoir l'air spirituel, mais pas moi. Moi, je veux le faire pour être spirituel. L'autre combat, c'est ceci. Je ne veux pas prier parce que je ne veux pas que le monde pense que je suis en train d'essayer d'être spirituel. Les deux côtés ne sont pas bons. Je vais vous dire que honnêtement, la prière la plus sincère que j'ai jamais entendue était une phrase, puis ça n'a pas été plus loin que ça. J'ai été dans une réunion de prière. Puis la personne a dit ceci, « Dieu, ça ne me tente pas de parler avec toi. Amen. » Ça m'a fait pleurer, parce que c'est sincère. C'est venu du cœur. Parce que la personne, il y avait des luttes, il y avait quelque chose dans sa vie que ça faisait mal. Ça allait pas bien dans sa vie. Peut-être qu'il y avait des problèmes avec sa famille ou quelque chose. Et ça faisait en sorte que il savait juste pas quoi dire à Dieu, puis il pouvait pas. Il n'avait rien à dire. Puis ça ne les tentait pas. Ça ne les tentait même pas d'être dans la réunion de prière. Et au lieu de faire un gros mensonge, puis de faire une grande prière pour paraître spirituel, il a tout simplement dit, « Dieu, ça ne me tente pas. Parler avec toi présentement. » Tu sais quoi? Si nous, on faisait ça, on pourrait avoir l'encouragement des autres. Parce que moi, je pourrais venir à côté de toi et dire, « Regarde, je vais prier pour toi. » Parce que toi, tu n'es pas capable de prier tout de suite. Mais si on se cache toujours en arrière d'une masque de spiritualité, puis après, on dit, « Personne n'est jamais venu m'aider dans mon besoin. C'est pas leur faute, c'est votre faute. » Parce que toi, tu n'as pas eu le courage de t'ouvrir et dire, ça va pas bien aujourd'hui. Et peut-être c'est pour ça que des gens, ils arrêtent de venir à l'église. Parce qu'ils n'ont pas de soutien, mais en même temps, ils ne s'ouvrent pas. Puis ils ont peur de s'ouvrir, de se faire juger. Il faut qu'on ait en être. Les longues prières, c'est pas mauvaise si ça vient du cœur. Mais une courte prière, ça pourrait être mauvaise si ça vient pas du cœur aussi. Il faut que quand on prie, on est transparent. On prie pas pour des hommes. On prie pas pour impressionner les gens autour de nous autres. On prie pour à Dieu. Et c'est ça qui devrait être dans nos prières. Il faut qu'on soit honnête. Comment appliquer ces versets à nos vies? Premièrement, l'apparence physique. Souvent, on veut l'honneur, on veut le respect des gens. Alors, on s'habille pour que les gens nous regardent et disent « Cette personne-là, c'est important. » Ou « Cette personne-là, il y a du cash. » On s'habille pour que des gens nous voient et disent « Ah, cette personne-là, c'est important. » Ou peut-être c'est pas l'habillement, peut-être c'est les choses que j'ai, mon voiture, peut-être c'est mon maison. Peut-être c'est d'autres choses. Mais nos possessions, souvent on les a parce qu'on veut se faire remarquer. Comment est-ce qu'on applique ces versets à nos vies? Paul, dans une lettre à Timothée, il a donné ce conseil. Pour les femmes, il a dit ceci. Que les femmes ne s'habillent pas avec l'or et perles et les habits en soie, qui sont vraiment beaux, mais qui s'habillent avec des œuvres bonnes. Maintenant, c'est quoi le principe? Le principe, ce n'est pas que... Il n'est pas en train de dire que tu n'as pas le droit de porter des bijoux, tu n'as pas le droit de porter des beaux habits. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est plus important que j'ai un habit qui vaut 500 $ ou que je fais des bonnes œuvres? Est-ce que Jésus, la femme qui est venue pour, puis qui a cassé le vase avec un parfum qui était cher, Jésus ne l'a pas dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, regarde, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était bon. Les autres disciples avaient dit, c'était pas bon, mais c'était bon. Parce que cette femme-là avait honoré Jésus au lieu des attentes des hommes. Et c'est ça que nous, on devrait faire. Que nous, notre désir soit toujours d'honorer Dieu avec notre argent, avec nos besoins, avec nos possessions. C'est Jésus, notre juge. C'est Jésus, notre maître. Ce n'est pas tout le reste du monde qui nous entoure. L'homme ou la femme qui est important aux yeux de Dieu est celui qui recherche sa face. Ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, le plus de possessions ou les meilleurs habits. Celui qui est important aux yeux de Dieu, c'est celui qui recherche sa face. J'ai lu un livre, ça fait longtemps, écrit, puis il a fait un commentaire sur le livre de Job, puis il a dit ceci. La chose que Dieu veut voir le plus dans nos vies, ce n'est pas qu'on est bien, confortable et qu'on a tout ce qu'on a besoin. C'est notre foi. La chose que Dieu veut voir le plus, c'est notre foi. Tout le reste des choses, c'est en deuxième pour Dieu. Mais des fois, j'ai l'impression que dans nos vies, nos fois, ça devient en deuxième. Et toutes les autres choses viennent en premier. Je te dis, quand on comprend ça, c'est une libération totale, complète. Parce que soudainement, ce n'est pas mon apparence physique qui est important. Soudainement, je ne suis pas esclave de tout le monde qui m'entoure. Je suis esclave de Dieu. Et d'ailleurs, ça c'est le thème de Romains 6. Nous sommes esclaves de Dieu. Si on est esclave de Dieu, on n'est pas esclave du péché. On ne peut pas asservir deux maîtres. Moi, quand je l'ai compris, c'était une libération totale. Puis c'est toujours une lutte. C'est toujours une lutte parce que des fois, ça me tente de paraître bien devant les gens. Puis je veux faire des choses pour que le monde vont tous dire, wow, David, regarde lui, allez, c'est hot. Il garde ses vêtements, il est important, il connaît des gens dans la ville qui sont importants. Mais tu sais quoi? Quand je me rappelle de ces versets-là, soudainement, je me dis, garde, tu sais quoi? Le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Le plus important, c'est que je recherche sa face. Que je recherche que ma vie soit toujours constamment une démarche pour être plus comme lui. Pas pour être plus comme Tommy Hilfiger ou n'importe quelle personne à Hollywood. Deuxièmement, notre apparence spirituelle, intellectuelle ou émotionnelle. Combien des hommes ici ont misère de pleurer en public? Moi, j'en connais des femmes qui n'ont jamais vu leur homme pleurer devant eux. Et ça, c'est triste. Une des hommes que je connais qui est le plus dur, qui est le plus rigide, qui est le plus c'est ça, 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 puis tu ne le fais pas, pah! C'est Paul dans le Nouveau Testament. Il est rigide. Tu lis les mots de Paul, puis c'est ça, 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 sinon, tac! Mais tu sais quoi? Je vais te lire un verset. Actes, chapitre 20, le verset 19. Regarde qu'est-ce que Paul y dit. Enfin, verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, ça c'est Paul, il leur dit ceci. Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les complots des Juifs. Philippiens, chapitre 3, verset 18, Paul, parlant de ceux qui ont parti de l'Église pour aller faire des grands péchés dans le monde, qui s'en foutaient totalement de Dieu puis voulaient juste faire les choses pour eux-mêmes, il dit ceci, « Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Ça l'a brisé le cœur et il n'avait pas peur de pleurer devant des gens et de dire, « Moi, je pleure parce que quelque chose m'attriste. J'ai pas peur, j'ai pas une masque. Je ne vais pas y aller me cacher pour pleurer. Ça me touche, ça me fait mal, je vais pleurer tout de suite. Parce que c'est ça que mon cœur il me dit à faire. Et tu sais quoi? Il faut que je sois honnête devant Dieu. Pas bien devant les hommes. Ce n'est pas mon apparence devant les hommes qui est important, mais mon cœur devant Dieu. J'ai entendu un comédien à un moment donné qui a dit, le dimanche matin, c'est la journée la plus intéressante de toute la semaine. Parce que tu vas entendre toujours ceci, surtout pour les parents qui ont des enfants, probablement assez vieux, de bouger puis courir partout. Si tu allais dans les maisons, tu entendras ceci. Un enfant qui court partout, le dimanche matin, les parents sont en train de préparer. Là, le parent, finalement, il l'attrape. Ha! Pas besoin pour aller à l'église pour qu'on puisse louer Dieu! Parce qu'il vous aime! Quand il arrive à l'église, tout sourit. Les enfants sourient. Mais c'est vrai. C'est drôle parce que des fois, c'est vrai. La journée qu'on va louer dans l'église, souvent c'est la journée la plus dure sur notre patience. Parce qu'on rush pour être là longtemps. Puis quand on arrive, tout est beau. Mais entre-temps, oh, ça t'est rough. Et tu sais quoi? On garde nos masques. On n'en parle pas de nos problèmes. On arrive à l'église, puis tout est beau. On parle de l'église, tout est beau. On arrive chez nous, puis là, on enlève nos masques, puis nos femmes nous voient comme on est vraiment. Nos enfants nous voient comme on est vraiment. Tout le reste du monde pense que ça va bien. Mais ça va pas bien. Si on était prêt à partager qu'est-ce qu'on vit dans nos vies, même des choses qui nous font mal de le dire, je pense, je suis convaincu qu'on serait capable de grandir, qu'on serait capable de surmonter ces montagnes, puis devenir encore plus comme Christ. Parce qu'au lieu de vivre ça tout seul, on aura toute la communauté chrétienne autour de nous autres pour prier pour nous autres, pour nous encourager, puis pour nous aider d'avancer vers Jésus-Christ ensemble, pas toute seule. Il faut qu'on enlève nos masques. Et tu sais quoi? Jusqu'à temps que j'enlève mon masque, je ne suis pas libre. Je suis une esclave. En arrière d'une masque, comme dans le film, le Belle et le Bête, quelque chose comme ça? La beauté et le bête? La belle et la bête? Quelque chose comme ça? Ou le fantôme de l'opéra qui se cache toujours en arrière de sa masque? Je suis pas libre parce que le monde ne me voit pas comme je suis. Il voit une apparence, puis j'ai peur. On a peur de partager comment que ça va vraiment. Pourquoi? Parce que si les gens voyaient comment je suis vraiment, ils diraient que tu n'es pas spirituel. Mais l'inverse est vrai. La personne la plus spirituelle dans l'Église est celui qui est capable de partager ses luttes avec d'autres personnes. Parce qu'il est ouverte, parce qu'il est honnête, au lieu d'avoir un mensonge devant tout le reste du monde. Et c'est pas facile. C'est pour ça les groupies. C'est pour ça les réunions de prière en petits groupes, pour nous donner l'opportunité de s'ouvrir à un groupe de personnes en qui on a confiance, qu'on sait qu'ils ne vont pas y aller parler à tout le monde pour nos problèmes, mais ils vont venir nous aider et nous encourager à aller de l'avant. Mais c'est pas facile. Dans mon groupe vie, à moi, ça nous a pris quasiment 4 ans d'arriver à une place où on était prêt à s'ouvrir à propos de nos problèmes. Ça prend la confiance. Mais tu sais quoi? Ça prend aussi un pas de foi. Ça prend un pas de foi de dire, je vais obéir à Dieu, parce que Dieu veut que je vive en communauté au lieu de tout seul. Hébreux 10, 19 à 25, il dit, veillons les uns sur les autres. Mais je vais te demander quelque chose. Comment est-ce que tu veux que je veille sur toi si je ne sais même pas qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Je ne peux pas t'aider si tu n'es pas prêt à t'ouvrir. Ça reste pour moi une mûre. Et c'est exactement la même chose pour tout le monde dans l'Église. Les personnes que tu t'appelles tes meilleurs amis, peut-être tu ne les connais même pas parce qu'ils ne partagent pas leur vie. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas les aider jusqu'à temps qu'ils partagent leur vie. Et eux, ils ne peuvent pas t'aider jusqu'à temps que toi, tu partages ta vie. On a vu la pratique, maintenant on va regarder le principe qu'il faut toujours garder en tête. Le principe qu'il faut toujours garder en tête. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Moi, j'aime ça. Le plus souvent que je lis la Bible, le plus qu'on voit comment que ça coïncide tout ensemble. Ça dit tout la même chose et tout le temps. Colossiens, chapitre 3, verset 17, Paul dit ceci. Quoi que vous faisiez, je vais attendre. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout. C'est quoi le principe? Tout ce que je fais ou ce que je dis, je le fais pour Dieu. Je fais tout pour Dieu. Ça, c'est libérant. Parce que soudainement, là, je peux mettre les vêtements que j'aime porter. Je peux agir comme je suis vraiment, au lieu de toujours marcher sérieux, puis, tu sais, retirer mon estomac pour paraître plus fort, puis puissant, puis en forme. Au lieu de marcher comme ça, puis paraître toujours parfait, je peux agir comme je suis vraiment, je peux être vraiment moi-même devant des gens. J'ai pas besoin d'avoir l'air toujours sérieux si je suis pas quelqu'un qui est toujours sérieux. Si je suis quelqu'un que, entre mon petit, dans mon petit cercle d'amis, je suis quelqu'un qui est vraiment extroverti, puis vraiment comme Nicolas, saute partout, puis vraiment content, joyeux. J'ai pas besoin d'avoir peur de faire ça devant le monde, parce que c'est pas pour le monde que j'agis, c'est pour Dieu que j'agis. Et tout ce que je fais, en œuvre ou en mot, je le fais pour Dieu. Mais, j'ai deux avertissements pour aller avec ce principe-là. Parce qu'il y a deux tentations qui pourraient arriver, même qu'on comprend ça. Premièrement, la tentation d'être content avec la médiocrité. Parce que personne n'a le droit de me juger. J'agis pas pour tout le monde, j'agis pour Dieu. Mais c'est pas vrai. Parce que là, si je faisais quelque chose pour Dieu, je ferais à mon meilleur. Ça m'étonne des fois de voir des gens qui sont prêts à dire « Je fais mon meilleur pour mon boss, pour avoir un meilleur salaire, et je donne la moitié de ce que j'ai peur de faire à Dieu. » Je fais mon meilleur pour avoir un meilleur salaire, mais pour Dieu, il va être content avec ce que je donne, même si ce n'est pas mon meilleur. Parce qu'il m'aime pareil. Tout est bon. Tu sais quoi? Moi, je pense que ça devrait être l'inverse quasiment. En fait, non. Je pense que ça devrait être les deux. Pourquoi? Parce que quand je vais au travail, oui, je travaille pour mon boss, mais en réalité, je travaille pour Dieu. Fait que quand je m'en vais au travail, et là, c'est le temps de break de 15 minutes, et tout le monde prend 20, je rentre à 14 minutes. Pas parce que je veux paraître plus spirituel ou saint que tout le reste du monde. Parce que moi, je travaille pour Dieu. Et moi, je veux faire mon meilleur pour Dieu. Toujours. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu fais un ministère, tu fais ton meilleur. Tu recherches toujours l'excellence. J'ai encouragé le groupe de louanges de jeunesse cette année. Je les ai dit, garde, vous êtes des musiciens vraiment, vraiment bons. Et vous êtes capables d'être encore meilleurs si vous mettez le temps de pratique. Fait que, viens pas à l'église avec l'idée que Dieu prendre ce que je donne. Je m'accepte comme je suis. C'est vrai. Parce que quand on vient à Dieu, on vient à Dieu comme des pécheurs sales. Et Dieu nous accepte comme on est. Mais à cause de ça, je devrais dire, hors de l'amour pour Dieu, hors de la reconnaissance pour qu'est-ce que lui m'a fait, je devrais dire, je vais donner mon meilleur à Dieu. Je recherche l'excellence dans tout ce que je fais. Pas parce que si je l'ai pas, je vais aller à l'enfer, mais parce que Dieu m'a sauvé, il m'a pardonné de mes péchés, et je sais qu'un jour je m'en vais au ciel. Et tout ce que je suis capable de donner, c'est ma vie. Alors je vais faire absolument tout ce que je peux faire pour lui. Je lui donne l'excellence. Alors ça, c'est une tentation, de rester dans la médiocrité parce que personne n'a le droit de me juger. Parce que moi, je travaille pour Dieu. Fait que j'ai pas besoin d'impressionner des gens. Parce que je fais pour ça pour Dieu. Puis on a la tentation de rester dans le médiocre. Mais non, faut pas faire ça. Si qu'est-ce que ce principe est vrai, tout ce que je fais, c'est pour Dieu, je devrais faire mon meilleur tout le temps. Et dans tout travail, ton temps de fun, si on peut dire, recherche des choses excellentes. L'autre tentation, c'est ceci. La deuxième tentation, c'est la tentation de juger des gens. Parce qu'on dit, moi, je fais mon meilleur, mais c'est clair que toi, tu ne fais pas le tien. C'est évident. Moi, je pense à un temps que j'étais allé à l'église. En Ontario, il y avait une église, puis j'étais allé dedans, puis j'ai rencontré un gars qui s'était habillé comme punk. Il avait vraiment, là, c'était un style que moi, j'ai seulement porté une fois, puis j'ai pu avoir l'opportunité de faire une prédication en même temps, pour ceux qui rappellent de l'année passée. Une beau petite chose ici. Mais lui, c'était encore pire. Il avait le spike. Une barre totalement rasée. L'autre barre, il avait le cheveu long qui tombait jusqu'ici. Là, il avait une chandail trouée. Des jeans troués. Il faut dire que c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de moyenne. Mais tu sais quoi? Il est venu à l'église parce que Dieu l'a pardonné ses péchés. Il voulait glorifier Dieu. Il est venu comme il était pour glorifier Dieu. Et j'ai parlé avec lui, puis il avait un cœur pour Dieu. Il venait aussi d'apprendre, et ça c'est intéressant. Quelques-unes des personnes que j'ai rencontrées qui étaient les pires habillées du monde étaient les plus ouvertes à propos de leur vie. C'est la première fois que j'ai jamais rencontré, et c'était aussi la dernière fois que j'ai rencontré. Mais cette fois-là, il m'a partagé de sa vie, comment que son frère, son petit frère, vient d'être mis en prison. C'était la fête des mères. Puis sa mère ne savait pas encore. Puis lui, il s'en allait chez sa mère pour expliquer à sa mère pourquoi son petit frère est allé en prison. Il est-tu ouverte avec une étrangère complète, il ne connaissait même pas? Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de parler avec lui, malgré son apparence. Nous, souvent, on peut avoir la tentation de dire, « Bien, toi, tu ne fais pas de ton meilleur. » Mais tu sais quoi? C'est entre lui et Dieu. Il ne faut pas que, d'un côté, on dit, « Bon, je n'ai pas besoin de faire de mon meilleur parce que je ne fais pas pour impressionner les hommes. » Mais de l'autre côté, quand que tu fais ton meilleur, il ne faut pas que tu regardes les autres et dis, ben toi, tu ne le fais pas. On est chacun des servants de Dieu. Et chacune rend compte à Dieu, pour lui, toute seule. Moi, je me rends compte à Dieu. Et vous autres, individuellement, c'est à Dieu que tu es redevable. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas t'encourager. Qu'on ne peut pas venir à côté de quelqu'un et dire, regarde, je vais t'aider d'avancer comme un chrétien. Mais c'est de dire que quand on le fait, ce n'est pas d'un esprit de jugement, mais c'est un esprit d'amour. J'ai entendu une histoire à propos d'un groupe de musique qui commençait. Il n'y avait quasiment aucun argent. Il fallait qu'ils s'habillent dans des beaux habits pour un gros événement ou que des récompenses seraient données, des félicitations données au meilleur groupe de musique et tout, mais il n'y avait pas d'argent pour acheter des habits. Il y a un gars dans leur église qui est venu aux quatre gars, puis on dit, garde, viens t'en avec moi. Ils ne sont pas allés à Moore's. Ils sont allés à une autre place qui vendait des habits extrêmement chers. Puis cet homme dans l'église, a acheté pour chacune des gars, quatre gars dans le groupe de musique des habits extrêmement chers. Il a dit, choisis l'habit que vous aimez et moi je vais le payer pour vous autres. Parce que vous n'avez pas les moyens. C'est comme ça qu'on devrait être. Quand on voit des gens puis on dit, ben moi je pense pas qu'il fait son meilleur. Au lieu de dire, allez le dire, regarde, tu fais pas ton meilleur, il faudrait que tu t'arranges mieux. Allez l'encourager. Allez voir son cœur avant. Dieu, il a dit, l'homme, il regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Et c'est vrai, parce que souvent, on est tellement porté à juger au lieu d'aimer. Je veux vous encourager. Tout ce qu'on fait, qu'on le fait pour le Seigneur, gardez ça en tête. Ça, c'est un principe qui nous libère qui nous aide à vivre pour Jésus et non pour les autres. Et c'est intéressant. Si on comprend ce principe-là, soudainement, nous allons, en vivant pour Dieu, nous allons voir des bonnes choses qui vont arriver dans nos mariages. Nous allons voir des bonnes choses qui vont arriver dans nos vies spirituelles. Nous allons voir des bonnes choses qui vont arriver tout autour de nous autres. Parce que si je fais tout pour Dieu, je vais aimer ma femme plus. Si je fais tout pour Dieu, je vais aimer mes enfants plus. Je vais aimer les gens autour de moi plus. Je vais être plus ouverte. Je vais être plus prêt à écouter au lieu de juger. Alors, je veux vous encourager. J'avais une chanson que je voulais faire jouer, mais j'avais pas le temps de traduire les mots. C'est une chanson par un groupe anglais qui s'appelle, le titre de chanson s'appelle Audience de 1. Puis l'idée de chanson, c'est ceci. Quand je rentre dans une place, j'ai une personne dans l'audience et c'est Dieu. Et c'est pour Dieu que je fais tout. On va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es grande. Seigneur, tu es un Dieu qui est saint, qui est tout-puissant, qui est totalement amour. Seigneur, je te remercie parce que un jour, tu nous as pardonné de nos péchés. Et Seigneur, je veux demander tout simplement que tu nous aides. Tu nous as déjà donné la liberté, Seigneur, et je te demande, aidez-nous de l'approprier. Aidez-nous, Seigneur, de vivre pour toi. Et de ne pas chercher l'approbation des autres, Seigneur. Que ce soit toi, notre seule audience. C'est pas facile, Seigneur, et moi je lutte toujours avec. Et des fois j'ai tentation de chercher à plaire aux gens au lieu de toi, Seigneur. Je t'en prie, aidez-moi d'être ouvert, d'être sincère avec toi, Seigneur. Aidez-moi, aidez tous ceux qui sont ici à matin, Seigneur, de mettre ce principe en pratique. Rappelez-nous souvent. Et que, Seigneur, que ton nom soit élevé. Amen.